the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, that you can't take part. You can't even passively take part. And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop.
Deuxième émission Fréquence Libre de la semaine. Vous le savez, notre invité toute cette semaine, c'est Tristan Edern-Vaquet, un début de parcours assez inhabituel qui nous a expliqué hier, mais intéressant, vous l'aurez compris. On poursuit aujourd'hui avec le descriptif de ses activités. Donc Tristan, on l'a dit hier, tu aurais pu être physicien assez haut classé. Tu as fait le choix de faire autre chose, d'être artiste avec toutes les difficultés que ça comporte. Tu écris, tu composes de la musique, tu fais également des spectacles qui sont humoristiques mais en même temps qui poussent à la réflexion. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail, de ta volonté d'éclectisme, si c'en est une, et puis du fil rouge qui guide tes travaux ?
Alors, tout ça est extrêmement compliqué. Par quel bout je vais prendre ça ? L'éclectisme, alors on va peut-être commencer par ça, je ne sais pas. Effectivement, moi, j'essaye à chaque fois que je pars sur un nouveau projet de changer de forme. Bon, pour plein de raisons. La première, c'est que comme effectivement ce que j'ai à dire est à peu près toujours la même chose, une pensée que c'est la liberté et l'excellence qui fait la beauté de l'homme et qui crée à la fois une vie heureuse pour l'individu et une vie valeureuse pour le corps social. Je pense avoir résumé ça de ce que certains appelleront un individualisme libertaire ou un élitisme libertaire, chacun mettra le mot qu'il veut. Si je changeais pas de forme, je ferais ce que font la plupart de mes camarades collègues, je ferais toujours le même livre, toujours le même disque, toujours le même spectacle. Et au bout d'un moment, ça lasserait mon maigre public.
Mais tu vivrais très bien de la SACEM.
Je sais pas, parce que je pense que si en plus je faisais toujours la même chose, ça aurait pas plus aidé à plus de carrière, j'aurais plus lassé les gens, mais j'en sais rien. De toute façon, moi je me serais lassé en premier. Donc moi je suis quelqu'un qui se lasse très vite. Pour vouloir juste me la péter et devenir très antipathique à nos auditeurs, mais je pense que c'est le propre des gens un peu intelligents, ça. Des gens qui ont un peu l'outil de l'intelligence, parce qu'on retrouve ça, par exemple, c'est typique du parcours de Boris Vian.
Oui.
Alors, intelligence, le mot va peut-être choquer, donc disons rationnel, ou des gens qui ont fait des études scientifiques. Moi, une fois que j'ai été au bout d'un projet, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Si je ressors le même coup, je m'ennuie. Je vais pas chercher. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher toujours ailleurs. Voilà, rester à la même place. D'abord, philosophiquement, je crois que c'est inintéressant pour soi et pour les autres. C'est cohérent avec ce que je te disais tout à l'heure sur le fond de mon travail, que j'essaie d'appliquer à ma vie. Mais tout bêtement, voilà, c'est ennuyant. Donc, effectivement, à chaque fois, j'essaye de changer de support. Donc, moi, j'ai commencé en faisant des chansons rigolotes qui étaient du sous Pierre Perret de l'époque ou du sous Google Premier de l'époque où j'étais, ou du sous Ludwig von, ou du sous VRP, et puis tu fais un peu la soupe de tout ça, tu secoues dans un shaker, et t'as des chansons engagées, rigolotes, provo, dans cette tradition de Charlie Hebdo, Harakiri, pas Charlie Hebdo d'aujourd'hui, Harakiri de l'époque, et tout ça, que de l'assiette au beurre encore plus loin, et si on veut vraiment chercher des choses très frimes, c'est Rabelais, c'est Molière, la France a toujours eu cette tradition-là, le grand auteur de théâtre français, c'est Molière en France, le grand auteur anglais, c'est Shakespeare, on voit deux
écoles.
Oui, on voit. Il y a toujours. C'est marrant, ça, cette dualité. De toute façon, moi, je suis très français de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en France, on a le côté cartésien, Descartes, il est français. Les Lumières, profondément, je suis ça profondément, et c'est profondément ça, la France. Et dans le même temps, on a le côté fouteur de mer, provo, rigolo, en France. Le côté rabelaisien, le côté Astérix. Moi, je pense avoir assez bien les deux. De ce point de vue-là, je suis très empreint de culture française. Donc j'ai commencé par faire de la chanson rigolote comme ça, provo, qui était rien d'autre que comme on commence tous leur sucer de ce que j'avais mal ou bien digéré, en tout cas de ce que j'avais vu avant. Et puis au bout d'un moment, ça m'a lassé, j'ai écrit un premier spectacle qui s'appelle Je veux être grand et beau, qui est un spectacle de théâtre, on va dire, un télo, avant-garde, je sais pas comment dire ça, en tout cas, extrêmement particulier, singulier, très très prétentieux et très insupportable. Donc là, on était complètement dans un autre registre. Et puis là-dessus, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Je gagne toujours à la fin », qui était une sorte de faux bouquin d'aventure rigolo, un genre de San Antonio, mais mixé avec du Nietzsche. Bon, les deux ensemble faisaient un truc assez singulier, qui est à la fois très littéraire, très rigolo, très provo, mais très profond, je pense, et politiquement, et sur le sens de l'humain. Et puis là-dessus, j'ai écrit un CD de hip-hop. Je passe les différents trucs, j'ai aussi joué du Pessoa, bon voilà, j'ai fait d'autres choses aussi. Mais j'ai fait un CD ensuite de hip-hop qui s'appelle « Crevez tous, premier massacre » avec un titre de 35 minutes, « La conjuration de la peur ». Donc là, le but pour moi, c'était de dire, après avoir commencé dans la musique en faisant des chansons couplets-refrains, qui étaient du sous, comme je disais tout à l'heure, sous cette tradition française de chansons rigolotes provo, j'ai voulu aller me donner le challenge de trouver une singularité. C'était de trouver ma musique à moi qui ne ressemblerait qu'à moi. Parce que je pense que je suis certain que ça n'est que ça le chemin d'un artiste. Un artiste, il n'est pas bon ou mauvais. Il est singulier ou il ressemble à tout le monde. Voilà. Ou il ressemble à trop de gens ou il ressemble aux gens qu'il a copiés. Et après, il essaye d'être profond dans cette singularité. Mais la première chose, c'est d'être singulier. De ne ressembler qu'à lui-même. Et moi, j'ai toujours été, depuis que je suis grand en tout cas, fasciné par le Ferré de la fin, c'est-à-dire effectivement pas les chansons provo, anard, couplet, refrain, un peu rigolote, qui m'intéressent moyennement, mais tout le Ferré de la fin, le Ferré de Il n'y a plus rien, le Ferré de préface, le Ferré de Et basta, le Ferré de l'Opéra du pauvre, tout ça, on va pas tous les citer. Et je me suis dit, comment est-ce que ce type-là, il est révolutionnaire, quoi. Il fait de la chanson, il y a des mots, il y a de la musique, et c'est évidemment plus de la chanson, il n'y a plus de couplet, il n'y a plus de refrain, c'est autre chose. Alors ceux qui n'ont pas envie de se poser la question de ce qu'est la chanson, ils font « Oui, mais lui, c'est pas pareil, c'est un poète. Bon, » ça permet de mettre un autre mot. Bon. Ça permet éviter de pas mettre dans la rubrique chanson le hip-hop ou le punk rock'n'roll ou toutes les formes nouvelles. Ça permet de garder la chanson dans un vieux truc vieux. Bah non, des gens qui font du hip-hop avec des textes, c'est de la chanson. Juste les gens qui continuent à faire de la chanson avec des musiques comme Brassens, ils sont juste ringards, ils font pas de la chanson. Ça, c'est malheureusement une évidence qui n'est pas assez comprise et entendue. Donc, je voulais trouver cette singularité qu'a Ferré, cette singularité qu'a quelqu'un comme Jean-Louis Coste aussi. Mm-hmm. Pareil, arrive avec de la musique, des paroles, et ça ne ressemble qu'à lui. Et il arrive à dire des choses qui sont profondes, qui viennent du fond de lui. Et j'ai couru après ça, et effectivement, ça s'est arrivé à ce CD. Crevez tous, premier massacre, donc, et ce titre, la conjuration de la peur, qui est une sorte de cours de philo. Donc effectivement, on retrouve mon côté très rationnel, c'est-à-dire c'est un cours avec un plan en quatre parties, avec des sous-parties vraiment, où j'explique des choses, j'explique comment on est passé une société où les maîtres mots étaient liberté, imagination, il y a 40 ans, à une société aujourd'hui du contrôle social par la peur, où les maîtres mots sont la sécurité et le contrôle social, et l'obéissance. Et ça m'intéressait d'analyser ça. Alors j'aurais pu effectivement faire un article de fond là-dessus, et puis ça aurait fait un article de plus qui aurait eu trouvé sa place dans le monde diplomatique, avec au mieux une petite forme un peu plus mieux écrite, et peut-être moins de références scientifiques que ces gens-là qui traitent ces sujets très bien. Et puis ça aurait été un article parmi 100 autres, et même si j'avais fait le meilleur article là-dessus, ça n'aurait pas été intéressant. Donc j'ai voulu le faire à ma façon, et donc je le fais en façon hip-hop, avec différents types de musique. Bon, faut écouter un morceau qui est assez intéressant, je pense. Et donc j'ai trouvé une singularité, et ça m'a rendu follement heureux, parce que j'avais relevé le défi du concours de beat avec Ebassa de Ferré. Bon voilà, j'avais réussi. Donc le coup d'après, c'est-à-dire en ce moment, mais on en reparlera évidemment plus tard, je voulais baiser la gueule à Victor Hugo et faire aussi bien que Les Misérables. Donc je voulais faire, après avoir écrit un roman d'aventure rigolo, je voulais écrire un grand roman social. Et donc je suis reparti sur un roman interminable très très long, et où tous les trucs formels, entre guillemets, qui ne sont pas des trucs, mais disons que toutes les choses sur lesquelles j'aurais pu m'appuyer issues de mon premier roman qui avait fonctionné, je m'en suis délibérément privé. Donc j'ai pas fait, pour ceux qui connaissent le bouquin, digression, fin de la digression, j'ai pas fait la mise en abîme perpétuelle du narrateur qui est à la fois le héros et le narrateur, comme dans un roman d'autofiction, mais oui, en décalant l'autofiction. Bon, etc.
T'as évité les grosses ficelles marketing dont on sait qu'elles marchent, mais comme tu disais, qui ne permettent pas à un artiste de trouver sa singularité.
Ben oui, et puis qui sont vues, revues, et qui n'ont aucun intérêt. Donc, en tout cas, moi, j'avais développé autre chose dans lequel toujours à la fin on parlera. Dans ce nouveau roman, je m'en suis délibérément privé pour aller autre part et puis pour moi grandir. Pour moi aussi, dans mon évolution personnelle, plus j'avance, plus j'aime toujours, pour une certaine part, l'humour, plus j'aime toujours m'en servir, mais moins je m'en sers et moins je le supporte chez la plupart des gens, parce que j'ai compris avec le temps que dans 90% des cas, l'humour est une forme de planquage qui permet de dire, si ça passe ce qu'on a dit, ah ben vous avez vu, je l'ai dit, puis si ça passe pas, non, je déconne. Oh, t'es moche et t'es con. Non, je déconne, me tape pas. Bon, à un moment, quand tu grandis, t'as des choses à dire, tu as plus besoin d'utiliser cet artifice. Alors après, je dis pas que des fois, l'humour peut être autre chose. L'humour peut être aussi un outil formidable de délégitimation et d'attaque des pouvoirs. Mais du moment qu'il n'est pas en train de l'acheter, il est intéressant. En tout cas, moi, je l'utilise de moins en moins, donc ce bouquin est beaucoup moins rigolo que le précédent. Et comme il est moins rigolo, forcément, il dit des choses plus en face. Et il fait une critique sociale et politique qui est plus en face et plus violente. Donc voilà pour... je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En fait,
oui.
À chaque fois, effectivement, j'essaye de changer de forme. J'essaye d'aller voir ailleurs. J'écris ça, je crois, dans mon premier bouquin. Je dis la phrase de la métaphysique, c'est sors dehors pour voir si t'es un homme. Évidemment, donc c'est une forme rigolote, on y revient. Le fond est vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours d'aller... Une fois que j'ai construit quelque chose un petit peu, de ne pas rester dedans, d'aller fermer la porte, de le regarder à côté, de me dire c'est bien, t'es fier de toi, tu l'as construit, maintenant tu vas voir ailleurs si t'es capable d'aller faire autre chose, si t'es capable de grandir, si t'es capable d'évoluer, d'aller chercher autre chose. Et c'est comme ça qu'on grandit, il me semble. Et donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, comme c'est de toute façon ça centralement que j'ai à dire dans mon travail, si je ne l'appliquais pas dans ma vie, si je disais aux autres, oui, pour grandir, il faut aller toujours vers l'inconnu, il faut se mettre en danger, il faut chercher à explorer les nouvelles pistes, et que dans ma vie, je fasse toujours le même bouquin, la même chanson, mais je serais un parjure.
Bien sûr.
Une grosse merde. Tant que je dis des mots comme ça, je serais un parjure. C'est pas le but, j'essaie de mettre en cohérence, ce qui est la moindre des choses, mon discours avec ma pratique de vie.
Ce qui n'est malheureusement pas une évidence pour tout le monde et chez
beaucoup d'artistes. Non, c'est même,
beaucoup d'artistes.
C'est même sur les personnalités médiatiques, comme on dit poliment, c'est même évidemment le contraire. À la base de la société de la communication dans laquelle on vit, c'est Tartuffe.
C'est-à-dire
que c'est de surtout montrer le contraire de qui on est. Enfin, n'importe qui nous écoute, oui. Qui réfléchit un peu, et j'espère qu'il y en a,
c'est
tout à fait comme une... Comme une évidence, il suffit de regarder n'importe quelle personnalité médiatique, qu'elle soit politique, même aujourd'hui dans le sport, dans partout. Ce qui compte, c'est l'image. Si je suis arrivé là, c'est que je suis une crapule. Je vais pas dire que je suis une crapule. Enfin, c'est les excuses de Strauss-Kahn qui regrette parce que son conseiller en regrettage lui a dit comment fallait faire ses excuses publiques à la télé. Mais évidemment, Strauss-Kahn, c'est un exemple parmi 10 000 autres. Ils font tout ça. C'est-à-dire, on est dans la société. Tartuffe, ça a toujours existé. Molière, il n'a pas attendu la télé pour écrire Tartuffe. Mais on en est arrivé aujourd'hui où la base des cours qu'on te donne, c'est des cours de communication, c'est-à-dire des cours de tartufferie. Tu es qui tu veux, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu dois correspondre à l'image que les gens attendent de toi. Moi, j'ai toujours...
Enfin, qu'on croit qu'ils attendent de toi, en plus. C'est peut-être même pas sûr.
Oui, c'est ça. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que tu veux dire. Qu'on croit qu'en plus, ils attendent de toi. Parce que Ça marche même pas, ou ça marche jusqu'à un point, mais en tout cas, moi, je m'en fous. J'ai pas envie de devenir le clown de moi-même, comme une fois de plus. Mais là, pour le coup, c'est un des meilleurs exemples du monde, Amélie Nothomb. Je veux dire, Amélie Nothomb.
Qu'est-ce qu'elle aura pris?
Plus ou moins sincèrement ou pas, elle est rentrée dans un personnage. Peut-être qu'elle était sincère au début. Enfin, elle n'est plus que la caricature d'elle-même. Ça m'intéresse pas, 20 ans après, de sortir les mêmes phrases qu'il y avait dans mon premier bouquin, les mêmes attitudes. Ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas.
C'est un sujet qu'on va continuer demain parce qu'on arrive au bout de l'émission. Un quart d'heure, c'est court, mais on va en reparler demain puisqu'il y a... C'est rare sont les gens qui restent radicaux avec le passage des ans. La plupart font fonctionner une vie et se chopent des ulcères. Et ça va être le sujet de notre émission de demain.
Excellent sujet, j'adhère.
Oui, bah ça va être demain, tu auras un quart d'heure pour nous en parler. On se retrouve donc à la même heure. Et puis, je le glisse juste en passant, pour trouver le travail de Vaquette, vous tapez simplement Vaquette sur Google ou crevez-tous pour aller sur son site. Et puis son roman, Je gagne toujours à la fin, vous le trouvez. Même sur Amazon, c'est assez facile à trouver. Donc, on fera des émissions littéraires un peu plus longues sur ces deux bouquins. En attendant, on se retrouve demain pour continuer le parcours de Tristan. À demain, Tristan.
À demain.